Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
Four, three, two, one. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Il est 20h et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classics Time Machine, le voyage radio-temporel de Radio Saint-Afrique, avec votre érudit de service, moi-même le Dr M. Et comme chaque quatrième mercredi du mois, nous allons voyager dans le temps à travers les événements marquants ou futiles du mois. Et cette fois, je vous emmène à bord de la Classics Time Machine faire un saut en musique et en archives de décembre 1955 à décembre 1990 en une heure chrono seulement. Je voulais remercier avant tout tout le monde pour vos petits messages d'appréciation sur la précédente émission. Ça fait franchement plaisir et je vais tenter de faire aussi bien. J'espère que vous serez tout aussi nombreux à nous écouter ce soir. Bien, assez parlé, pour commencer, nous partons immédiatement en 1958. C'était l'époque du rêve américain, des voitures rutilantes, des drive-in et des serveuses en roller qui vous apportaient des milkshakes à la banane, que l'on sirotait au volant avant de se repasser un petit coup de peigne en se regardant dans le rétro. Et moi, pour ma part, je vous offre ce tube du défunt Buddy Holly, le rocker aux épaisses lunettes d'intello et aux costumes de première communion, avec That'll Be the Day, un titre qui sent bon le popcorn et la brillantine. Le grand Buddy Holly, une icône des 50s qui nous a quittés à l'âge d'à peine 22 ans, on ne manquera pas de lui rendre hommage dans un prochain numéro de Classics Time Machine, c'est promis. Et maintenant on se détend, on monte le son, on rajuste son perfecto et on polit ses mocassins en velours, c'est parti!
This evening, one of the world's great entertainers and musicians, John Lennon of the Beatles, was shot outside his New York home. John Lennon was shot three times at around 11 p.m. Eastern Time. He was rushed to New York's Roosevelt Hospital, but died a few minutes later. Police have a suspect in custody whom they describe only as a local screwball.
Yes, they mourned his death in silence and in song. Thousands in New York Central Park, many thousands more across the nation and the world, marking a 10-minute silent vigil at 2 o'clock local time, wherever the Lennon fans happen to be. The silence falling also in Chicago, Philadelphia, Miami, Memphis, Detroit, and other cities. A report now on the Central Park observance from John Henry.
The silence was almost total here in Central Park this afternoon, except for the sound of the helicopters circling above. Every human being, maybe as many as 200,000, who had gathered here to pay silent tribute to John Lennon did exactly that.
Le soir du 8 décembre 1980 à New York, John Lennon est abattu, assassiné en pleine rue, juste en bas de son immeuble de Central Park. Lennon, qui revient d'une journée passée en studio, sort de sa voiture en compagnie de sa femme Yoko Ono lorsqu'il tombe nez à nez avec un certain Mark David Chapman, un trentenaire à l'équilibre mental instable. Il aurait obéi à des voix qui lui auraient ordonné de se rendre armé devant le domicile de Lennon. Lorsque par malheur, la limousine grise s'arrête et dépose le chanteur sur le trottoir, Chapman, entendant des voix lui criant « Do it, do it », se porte au niveau de la rockstar. « Nous avons échangé un regard », dira plus tard Chapman. Il a esquissé un petit sourire étonné, puis j'ai brandi mon pistolet et j'ai tiré 5 balles. Je pense que Lennon était mort avant même d'avoir touché le sol. Chapman est ensuite maîtrisé au sol, désarmé et arrêté par la police de New York, qui le place immédiatement en garde à vue. Lorsque les secours arrivent sur place, il est déjà hélas bien trop tard. Une des balles a atteint John Lennon en plein cœur et il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. La nouvelle tombe et se répand comme une traînée de poudre. Lennon, une des figures de proue du pacifisme des chanteurs engagés, lui qui ne prenait qu'amour et fraternité, tombait victime de cette violence même qu'il s'était mis en tête de vaincre par la non-violence, à coups de sit-in, de manifestations et de chansons. Interrogé sur les motivations de son geste, Mark Chapman déclarera qu'en assassinant John Lennon, il voulait devenir aussi célèbre que lui et entrer dans l'histoire à ses côtés. Le plus absurde dans cette triste affaire, c'est que Chapman affirme être un très grand fan de John Lennon. Ce qui rend son geste encore plus difficile à comprendre. Dans les jours qui suivent, une foule immense se rassemble dans Central Park et vient rendre hommage à cette icône du mouvement hippie et chante « Give Peace a Chance » ou encore « All You Need Is Love », bougie à la main. Beaucoup disent ce soir-là que sur le trottoir de Manhattan, c'est le mouvement hippie en entier et l'idéal d'amour et de paix des années 70 qui fut enterré, laissant place à une certaine résignation face à l'indifférence et l'avènement de l'individualisme comme symbole même des années 80. Alors bien sûr, pour lui rendre hommage ce soir, j'aurais pu vous passer Imagine, le titre phare de la carrière solo de John Lennon, mais bon, c'est un morceau qu'on entend assez souvent partout, et heureusement. Donc je vais vous laisser en compagnie d'un autre titre de Lennon qui se marie ironiquement très bien avec les circonstances de la mort du chanteur. Une chanson écrite exactement 10 ans plus tôt et qui parle justement de vivre pour donner un sens à sa mort et de faire le bien autour de soi durant cette vie terrestre matérialiste. Voici donc John Lennon avec Instant Karma. Vous écoutez Classics Time Machine sur Radio Saint-Af.
Why in the world are we here? Are you a doctor?
I'm a doctor. I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
C'était Paul Simon en 1980 avec Late in the Evening sur Classics Time Machine avec le Dr. M on the RADIO. Sale mois que le mois de décembre pour la musique, car ce fut aussi autour de la légende de la soul Otis Redding de disparaître le 11 décembre 1967 dans le crash d'un avion privé qui l'emmenait en tournée. Rendez-vous compte, seulement trois jours avant son accident, Otis Redding sort tout juste du Stax Studio à Memphis et déclare à ses amis avoir un bon feeling et qu'il est très satisfait de l'enregistrement. Ce jour-là, le 8 décembre 1967, il vient en effet de graver dans le micro-sillon le célébrissime Sitting on the Dock of the Bay qui sera de loin son plus grand succès. Trois jours plus tard, il prépare sa tournée musicale et se retrouve en soirée avec notamment James Brown. Ce dernier tente de le dissuader de prendre l'avion et pour cause. James Brown connaît bien ce petit avion à bord duquel il a volé en tournée et dont il garde un très mauvais souvenir. C'est peine perdue car Otis Redding embarque de nuit avec son groupe de Barkees à bord de l'appareil, mais peu avant l'atterrissage à l'aérodrome de Madison dans le Wisconsin, l'appareil appareil pique soudain du nez et s'abîme dans les eaux glacées du lac Monona. Seul rescapé, Ben Colley, musicien d'Otis Redding, ne doit sa survie qu'à un coussin de banquette attrapé au hasard dans la panique et qui le remontera à la surface. Ne sachant pas nager, Colley ne peut porter secours au reste du groupe. Otis Redding n'avait que 26 ans et devient de fait le premier artiste à décrocher un numéro mondial posthume. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
You can never whip these birds if you don't keep you and them separate. I found that out in Birmingham. You've got to keep the white and the black separate.
For a number of years, the Negro passengers on the city bus lines of Montgomery have been humiliated, intimidated, and faced threats on this bus line. Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger.
Well, we were to achieve equal rights as any human being deserves. That's what we're working for.
What do you think the prospects are for achieving that goal?
I think we'll be successful if we continue.
Although many have been arrested, we continue our protest, for none of our actions have been found illegal. The carpool and all we have done in this struggle continues.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Le soir du 1er décembre 1955, une certaine Rosa Parks, employée noire américaine dans la ville de Montgomery, dans l'Alabama, au sud des États-Unis, rentre chez elle à bord d'un bus de la compagnie locale des transports en commun. À cette époque, en Alabama, les transports sont soumis à la loi sur la ségrégation raciale et les passagers blancs sont séparés des passagers noirs. Rosa Parks est assise vers l'arrière du bus, dans la section dite « colorée », quand un voyageur blanc se retrouve sans place face à l'affluence des passagers en cette heure de pointe. Le chauffeur de bus se lève alors et demande à Parks de céder sa place. Rosa Parks se décale alors vers le siège à la fenêtre du bus, laissant sa place côté couloir libre. Mais on lui demande d'aller s'asseoir une rangée plus en arrière, car il est inconcevable qu'un blanc puisse être assis à côté d'une noire. Pour Rosa Parks, c'est l'humiliation de trop et celle-ci refuse de se déplacer. Lorsqu'on la menace de faire venir la police et de l'arrêter, elle répond calmement « You may do that », autrement dit « Vous n'avez qu'à le faire ». Lorsque les policiers montent à bord et lui demandent d'obtempérer, elle refuse encore. Un des policiers présents fait alors remarquer au chauffeur qu'ils ne peuvent pas légalement arrêter Parks, car elle est assise dans la zone attribuée aux voyageurs dits de couleur. Le chauffeur décale alors tout simplement la petite pancarte « Colored » d'une rangée afin de placer Parks, de fait, dans l'illégalité, ce qui suffit aux policiers pour se saisir de la femme de 42 ans et de l'emmener au poste de police. Condamnée plus tard pour trouble à l'ordre public et non-respect des lois raciales, Rosa Parks écope d'une amende de $14, mais son procès médiatisé fait l'effet d'une bombe. Le pasteur Martin Luther King, que vous avez entendu dans le fragment, s'empare de l'affaire et se fait le porte-voix d'une Amérique noire persécutée et excédée des injustices qui lui sont faites. Avec Parks, il organise un boycott massif et général des transports en commun et incite les travailleurs noirs à covoiturer pour mettre en difficulté les compagnies qui appliquent cette ségrégation raciale. Les manifestations sont durement réprimées, mais la pression économique exercée et l'indignation nationale envers ces lois est telle qu'elles finissent par faire plier l'administration des États de Louisiane, Mississippi, Alabama et de Géorgie, qui abrogent finalement cette loi ignoble. C'est une victoire sans appel pour la communauté afro-américaine et très vite, le mouvement s'organise et donne naissance à la Ligue pour les droits civiques qui luttera chèrement pour l'abrogation totale de la ségrégation et l'arrêt des intimidations quant au droit de vote des Noirs américains. Souvent perpétrés par le Ku Klux Klan, qui est friand de lynchage public, les intimidations continuent. Des militants des droits civiques sont souvent passés à tabac et certains même assassinés. En 1968, ce sera au tour de Martin Luther King de tomber sous les balles d'un suprémaciste blanc. Mais la cause triomphe et les Afro-Américains obtiennent finalement ce qui leur revient de droit. Si la ségrégation a été abolie et que les droits civiques pour les Noirs sont un fait depuis plus de 50 ans, j'ai eu l'occasion de me rendre dans les États anciennement ségrégationnistes et je peux vous dire que si d'un point de vue de la loi, la ségrégation n'existe officiellement plus, dans les faits, elle est profondément ancrée dans les mœurs. J'ai été frappé de voir qu'en plus des quartiers exclusivement blancs et de quartiers autres exclusivement noirs, je n'ai jamais vu dans la rue, au restaurant ou dans tout autre espace public, des blancs vivre aux côtés des noirs. La ségrégation légale a laissé place à une ségrégation économique et culturelle. Triste constatation pour une très belle région où l'hospitalité, la générosité et la gentillesse de ses habitants, quelle que soit leur couleur, m'a pourtant fortement impressionné.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bien, messieurs, bonsoir. Les Centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier 10h43 un empereur. Bokassa Ier, troisième souverain impérial du monde après Hirohito et le Shah d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. En exclusivité pour Antenne 2, voici les temps forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien.
Le palais du couronnement a bangui hier matin. Dans quelques instants, Jean Bedel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspiré des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Dans la salle du palais du couronnement, les délégués de plusieurs pays. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux. Celui par exemple offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne.
C'est le 4 décembre 1977 à Bangui, en République centrafricaine, qu'a lieu un événement des plus cocasses du XXe siècle, le couronnement de l'empereur Bokassa Ier. Jean Bedel Bokassa, capitaine et ancien militaire de l'Empire colonial français, maintes fois décoré et ayant combattu en France lors du débarquement allié de Provence en 1944, puis en Indochine, puis en Algérie, prend le pouvoir en Centrafrique en 1965 en renversant son propre cousin, qu'il avait pourtant fait nommer colonel et chef d'état-major dans les armées. D'abord très populaire auprès des Centrafricains, le régime du président Jean Bedel Bokassa va pourtant vite basculer dans la dictature et la répression. La police arrête, torture et assassine tout opposant ou personne soupçonnée de l'être. Le pouvoir de Bokassa ne repose pourtant sur aucun texte légal. Il est de fait le maître de la République centrafricaine et fait reposer toute son autorité sur la peur. Dans notre jargon d'historien, il y a un terme pour décrire ce type de dictateur que fut Jean Bedel Bokassa, qui répond au doux nom de « potentat kleptocratique », dont il est la définition par excellence. Un homme d'appareil d'État sans mandat, populaire, qui subtilise le pouvoir auquel il participe déjà et les ressources du pays par la force et pour son propre intérêt. Voulant se distinguer des autres dictateurs africains de l'époque, il se fait donc proclamer empereur de Centrafrique par la volonté du peuple, ce 4 décembre 1977. La cérémonie, qui se tient dans la capitale Bangui, est d'un faste impressionnant et outrageant. Alors que le salaire moyen dans le pays ne dépasse à l'époque pas les 100 dollars, on estime le coût de la cérémonie à plus de 7 millions de dollars. Il faut dire que pour son sacre, Bokassa Ier a mis le paquet. Sa robe impériale, d'hermine blanche et de soie rouge, brodée d'or, a été réalisée par le couturier français Pierre Cardin. Et la couronne impériale, en or massif et incrustée de 7000 carats de diamants, dont un de 60 carats, a été conçue par Artus Bertrand. Les accessoires qu'il porte, sceptre, ceinture, couronne de laurier en or, gants, etc., possèdent à elles seules plus de 10 000 pièces d'orfèvrerie. La cérémonie, à laquelle participent 5 000 invités du monde entier, est achevée par un défilé magistral en carrosse en or jusqu'au palais. Les chevaux qui tirent l'attelage succombent de fatigue et de chaleur et l'empereur doit terminer son défilé en voiture sous les hurrahs de 100 000 personnes amassées sur la route. Pour les festivités, Bocassa Ier a aussi fait apporter 60 000 bouteilles de champagne. La France n'a bien sûr pas oublié d'envoyer son ministre assister au sacre. L'excès de luxe, la profusion d'or et de pierres précieuses dans ce pays regorgeant de richesses mais dont la population est une des plus pauvres et les plus démunies d'Afrique, a un caractère obscène qui force le dégoût. La cruauté du régime, exploitant et s'accaparant tous les moyens de production et exhibant au monde entier ses excès, finissent néanmoins de ternir l'image de Bokassa. Pour couronner le tout, on l'accuse même d'anthropophagie. Dans son propre pays, dans son propre camp, les soutiens finiront par le lâcher, un par un, et Bokassa Ier sera renversé le 20 septembre 1979, puis contraint à l'exil, notamment en France, dans son château d'Ardricourt, dans les Yvelines. Condamné à mort par contumace, il ne retournera en Centrafrique qu'en 1986 et passera 7 ans en prison avant d'être gracié. Il meurt le 4 novembre 1996 d'une crise cardiaque chez lui, à Bangui. Il avait 17 épouses et 39 enfants reconnus.
We'll be right back.
C'était David Bowie avec Sound and Vision et juste avant vous avez écouté Peter Tosh avec African en 1977 sur Classics Time Machine.
Nicolae Ceaușescu a bien été exécuté, en voici la preuve. Nous venons tout juste de recevoir ces premières images de la télévision roumaine, des images montrant donc Ceaușescu après son exécution. Ce sont les toutes premières images qui viennent de nous parvenir en provenance de la télévision roumaine. Bonjour, Nicolae Ceaușescu et sa femme ont donc été exécutés hier soir, nous venons d'en avoir la preuve. Le couple maudit a été jugé par un tribunal militaire dans le plus grand secret. Ceaușescu était notamment accusé d'avoir fait tuer plus de 60 000 personnes en quelques jours. La télévision roumaine devrait nous retransmettre d'autres images dans les minutes à venir. La rédaction d'Antenne 2 prépare une émission spéciale dès que nous aurons ces documents et notamment, nous l'espérons, des images du procès. Dès ce matin, nous avons reçu les premières images de Nicolae Ceaușescu et de sa femme telles qu'ils ont été filmés après leur arrestation. Nicolae Ceaușescu savait-il qu'il allait mourir ou bien se croyait-il encore intouchable? Regardez, le dictateur n'affiche que le mépris et le dédain face à ceux qui l'ont arrêté. Hervé Vosigny.
Le couple a été exécuté car reconnu coupable de génocide, dit le speaker. Plus de 60 000 victimes, de noyautage de l'État, de vol de biens publics, de destruction de l'économie roumaine. Il est 2 heures du matin lorsque ces images apparaissent sur les écrans du pays. À l'hôtel intercontinental de Bucarest, une foule s'est amassée et crache sur les postes de télévision.
Cet extrait du journal du 24 décembre 1989, toute personne ou presque ayant au moins 10 ans à cette année-là s'en souviendra. À la stupeur générale, Nicolae Ceaușescu, le dictateur redouté de Roumanie, l'intouchable despote avec sa redoutable police politique, la Securitate, était abattu devant les caméras dans un procès militaire de pacotille dans une caserne délabrée. Mal accoutré, ensanglanté, les cheveux blancs hirsutes gisant aux côtés de son épouse Elena, on saisit les corps en leur redressant la tête face à la caméra pour ne laisser aucun doute. Nicolae Ceaușescu et sa femme sont morts, exécutés par la Révolution populaire de Roumanie. Image absolument impensable une semaine auparavant encore. Le dictateur tenait alors son pays d'une main de fer. La décomposition du bloc soviétique et des pays voisins semblait alors épargner jusqu'ici la Roumanie de Ceaușescu. Tant il était craint dans sa propre nation, et pourtant, deux événements et la brutalité maladroite du régime vont, en moins de 5 jours, précipiter la chute du tyran. Tout commence le 17 décembre 1989 dans la ville de Timișoara. Voyant l'explosion du bloc de l'Est, les lycéens sentent le vent tourner et se rassemblent, s'organisent, puis bravent l'interdit et marchent dans les rues pour exiger des réformes. L'armée tire et écrase les manifestants, les autres sont arrêtés et torturés par la Securitate, puis certains sont éliminés. La propagande ne peut rien contre le bouche à oreille et malgré le silence des autorités sur ces exactions, la colère monte et finit par gronder dans le pays. Le 21 décembre, des émeutes sont signalées à Bucarest, la capitale. Sentant l'urgence de la situation, Ceaușescu organise à la va-vite une manifestation spontanée de soutien populaire où il tient un discours devant les caméras au balcon de son palais devant une foule innombrable. En réalité, cette foule est en partie constituée de militants ou de membres du régime mêlés de citoyens qu'on a placés devant des soldats de la Securitate et que l'on force à applaudir. Le reste de la foule, tout à l'arrière, est constitué de Roumains excédés par le régime et qui comptent se faire entendre. Pour tenter de calmer la colère des manifestants, il promet l'augmentation des salaires et des allocations à tout va et d'autres mesures servant à acheter la paix sociale, la plupart semblant même être improvisées sur le champ. J'ai retrouvé dans les archives la prise de son de cet ultime discours du dictateur Ceaușescu. Vous y entendrez la foule commencer à hurler de rage contre le dictateur, puis la police faisant feu, les cris de panique des dizaines de milliers de personnes tentant pour certains de s'enfuir et pour d'autres de forcer les portes du palais. Ceausescu a beau hurler sur la foule et ordonner le calme, rien n'y fait. On ressent alors dans sa voix la peur qui soudain prend le dessus face à la colère du peuple. Il semble prendre conscience de sa propre impuissance à gérer la foule. Sa femme peut vociférer autant qu'elle veut derrière son tyran de mari, il est déjà trop tard.
De asemenea, să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
Dans une panique indescriptible, la foule ayant réussi à forcer le barrage et pénétrant dans le palais, Nicolas et Elena Ceausescu sont évacués sur le toit par les agents de sécurité où ils parviennent à prendre la fuite en hélicoptère. La foule prend le palais, l'armée se retourne contre le dictateur, les radios et les chaînes de télé sont investies par la foule, le régime de Ceausescu vient de tomber. Pour autant, rien n'est fini pour l'ex-dictateur. Celui-ci tente de s'enfuir dans sa résidence secondaire, mais en chemin, alors qu'il a dû abandonner son hélicoptère et se faisant passer pour un simple retraité, il fait du stop et est reconnu et dénoncé. Il faut dire que, le culte de la personnalité aidant, son portrait a pendu pendant plus de 20 ans à tous les coins de rue du pays. Arrêté, puis emmené dans un tank vers la caserne de Targovice, excusez-moi pour la prononciation, il est jugé le 25 décembre avec son épouse en 55 minutes seulement, et tous deux sont condamnés à mort. À peine ont-ils eu le temps d'entendre le verdict, on leur attache les mains dans le dos, puis on les traîne vers la cour tandis qu'ils crient, insultent et supplient. Une fois dos au mur, des rafales d'armes automatiques sont tirées, et dans un nuage de poussière se dissipant, on aperçoit leur silhouette au sol, effondrée dans des positions improbables. Archive.
Un picioare.
No, dragă, bune, dragă, suntem oameni.
Tribunalul, în numele legii și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii.
Toți credătorii! Oricât vor fi, va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători.
Împreună.
Se putea să și anunțăriți.
Nu, dragă, nu, nu, mergem împreună.
Da.
Nu, nu, dragă, nu.
Să mergem. Nu,
nu, nu, nu.
Deci faci de acolo și...
Am de.
Nu e voie să ne legați.
Da, 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 da.
Nu, nu, nelegați.
De acolo.
Nelegați. De acolo. Ce vă trată de popor, vă
trată
de popor.
Nu mai trage nimeni.
Si la scène est absolument terrifiante, il faut se mettre à la place des Roumains qui, dès sa diffusion, crient de joie et regardent ces images en boucle sur les télés du pays en applaudissant. Après des années de misère, de peur et d'exploitation, la dictature s'était effondrée et avait fait place à un grand moment de colère populaire. Une fois la révolution passée, les plaies pansées, la reconstruction du pays et l'installation de la démocratie pouvaient commencer. Il est difficile de ne pas comprendre l'amertume de beaucoup de Roumains aujourd'hui qui, au lendemain de la dictature, avaient de grands espoirs pour leur pays. Comme pour la plupart des habitants d'Europe de l'Est, la fin du communisme et de la répression et l'installation hâtive du libéralisme a laissé de profondes désillusions et les injustices sociales, ici comme partout, n'ont peu ou pas été rectifiées.
Girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask
ask yourself, so you think you're gonna win this time, man, child?
C'était la suédoise Nene Cherry en 1989 avec Manchild. Vous écoutez toujours Classics Time Machine sur Radio Saint-Aff avec le Dr. M.
Where are you going? We're gonna miss the plane!
When the McAllister family left on their Christmas vacation...
Did we miss the plane? No, you just made it.
Yeah!
They forgot one small thing.
Have yourself...
I have a terrible feeling.
Did you lock up?
Let yourself be light.
Do we set the timers on the lights?
Mm-hmm. What else could we be forgetting?
Our troubles will be ours.
Kevin!
This is it. Don't get scared now.
We're the Wet Bandits.
More!
Harry?
Hello.
Ah! Where are you, you little creep?
Alone.
You can't come in. You said you love me, but you can't come in. Goodbye tomorrow night and try it again. Why?
Le carton cinéma de décembre 1990, certains s'en souviendront peut-être, c'est l'indécrottable Home Alone qu'on nous ressort à la télé à peu près chaque année au moment de Noël, avec d'autres films sur le thème, du style Le Père Noël est une ordure et les flopés bien sûr des dessins animés Disney. Home Alone est rebaptisé en français « Maman, j'ai raté l'avion ». Alors là, chapeau pour la traduction. Il y avait une véritable mode tout au début des années 90 pour donner des titres les plus improbables aux films en version française. Rappelez-vous de « Allô maman, ici bébé », de « Arrête où ma mère va tirer » ou encore de « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». « Maman, j'ai raté l'avion », comme vous avez pu l'entendre, mettait en scène un jeune garçon de 9 ans, Kevin, joué par Macaulay Culkin, que ses parents oublient d'emmener avec eux en voyage à Paris pour les fêtes de Noël. Le petit garçon profite un temps d'une vie sans parents et sans contraintes, jusqu'à ce que deux méchants cambrioleurs, incarnés par Joe Pesci et Daniel Stern, ne décident de s'en prendre au petit Kevin qu'ils pensent vulnérable. Mais en bon américain modèle, Kevin a déjà le sens sacré de la propriété et le film nous délivre pendant une demi-heure durant une dose super-size de « Get off my property ». On se souvient de la créativité des pièges installés par Kevin qui fonctionnent tous à merveille, tandis que moi, même âge, même époque, je galérais encore pour assembler mes propres Lego. Largement moins créatif, en revanche, ce sont les dialogues du film dont la réplique « Ah !» se décline sous toutes ses formes pendant près de 3 quarts d'heure, comme vous avez pu l'entendre dans ce montage, et croyez-moi, je ne les ai vraiment pas tous mis, car c'est des vacances, et je ne veux pas infliger à vos oreilles une dose supplémentaire d'hystérie, en plus de celle chronique de vos marmots à Noël, si vous en avez. Bon, je sais, Home Alone est un film pour les enfants, et je ne vais certainement pas juger avec les mêmes critères qu'un film d'art et d'essai prétentieux à la Eric Rohmer. J'ai vu ce film en salle quand j'avais 10 ans et je vous assure que j'ai sincèrement pensé à l'époque que c'était le plus grand film que j'avais jamais vu. Pour l'acteur Macaulay Culkin, ce film fut un peu son unique grand succès et après avoir été érigé au rang d'enfant star et ayant même été ami avec Michael Jackson, Culkin eut un passage plus difficile dans sa vie d'adolescent avec différentes arrestations pour usage de drogue avant d'être également condamné en 2004 à 3 ans de prison avec sursis pour trafic de sédatifs. Néanmoins, Culkin s'est révélé ces dernières années être une icône au second degré des mouvements du cinéma underground américain et serait, paraît-il, en train de préparer son comeback. Waouh, ça c'est du scoop. Enfin bref, c'est l'heure de passer un peu de musique et là je me sens obligé de passer encore un véritable chef-d'œuvre de l'année 1990. Attention, ça va faire mal, on passe en mode Madeleine de Proust à la date de péremption largement dépassée. Je vous laisse en compagnie de DJ Daddy K featuring Benny B, le duo belge qui est à peu près à la musique ce que Jean-Claude Van Damme est à l'art dramatique. 1990, Do You Speak Martien, Benny B sur Classics Time Machine.
Écoutez.
Une soucoupe. Les hommes de l'espace arrivent. Venez, on vous attend. Venez. Do you speak martien? Où est la soucoupe? Do you speak martien? Ouais. Do you speak martien? Où est la soucoupe? Do you speak martien?
J'ai des fous.
Ici, ils parlent notre langue. Oh oui, sans accent.
Si vous êtes encore là, félicitations, vous avez survécu à un épisode de plus de Classics Time Machine sur Radio Saint-Aff. Nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le prochain 4e mercredi du mois à 20h. Ce sera le 24 janvier 2018, j'espère que vous serez de la partie. Cette émission a été écrite, réalisée, montée et présentée par le Dr M, c'est moi, avec à la prod notre technicien Antoine alias Goldfinger, à qui je lève mon chapeau. Vous pouvez réécouter ce numéro de Classics Time Machine sur notre site de Radio Saint-Aff et vos réactions sont les bienvenues. Avant de nous quitter et de vous relâcher en ces derniers jours de l'année 2017, je vous laisse là où je vous ai emmené au début de cet épisode, c'est-à-dire en l'année 1958, avec ce titre final, The Coasters Yakety Yak, un morceau qui vous rappellera ce chantage éhonté aux corvées ménagères commis par nos parents en période de Noël. Bouh ! Sur Classics Time Machine, avec le Dr M, 1958, The Coasters Yakety Yak, Don't Talk Back.
Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yakety yak,
don't talk back.
Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yakety-yak!
Don't talk back.
Who is that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.